Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard.
Bonjour pour cette rubrique portrait dans notre émission Un jour dans l'histoire, Canal Académie a le plaisir de recevoir Jean-Pierre Diques, écrivain, historien, président de la Société académique du Boulonnais, qui évoque un personnage peu connu des Français mais très célèbre en Catalogne, au point que les universités de Palma et de Barcelone portent son nom, Raymond Lull. Alors vous, Jean-Pierre Diques, vous ne dites pas Raymond Lull. Vous
On dit Ramon Llull.
Ramon Llull. Alors allez-y. Qui était ce Ramon
Llull? Je suis très heureux d'en parler parce que c'est, à mon avis, un des plus grands génies de l'histoire de l'humanité. Malheureusement, son génie s'est trouvé complètement, supprimé plutôt, par la présence de saint Thomas et de saint Bonaventure.
Donc c'est la même époque.
C'est exactement la même époque.
14e siècle.
Alors non, c'est 13e siècle.
Fin
donc,
13e siècle.
Saint Thomas 1225, Bonaventure 1223 et lui 1233. Donc, cinq années après.
Bien. Pur XIIIe siècle.
On est en pur XIIIe siècle. Alors, c'est un génie multiforme, mais son histoire tient du roman policier, pratiquement, parce qu'il y a tellement de rebondissements dans sa vie. Bon, résumons rapidement. En 1229, la conquête de Majorque par le roi Jaime I, Jacques Ier, qui est roi d'Aragon et comte de Barcelone, à partir d'une expédition qui part effectivement de Montpellier, de Perpignan et de Barcelone. Bien, l'île est prise, c'est une île où on a l'habitude de vivre ensemble, c'est-à-dire que les populations, qu'elles soient juives, chrétiennes, ont l'habitude de se juxtaposer sans aucun problème, et la conquête se passe très bien. Et Jaime Primero, donc Jacques Ier, a un guerrier particulièrement valeureux qui a un fils qui s'appelle Raymond, qui va devenir son sénéchal, et ensuite qui va être chargé d'être le précepteur de son propre fils qui montera sur le trône de Jaime II, auquel on doit le fameux palais des rois de Majorque qui se trouve à Perpignan, que tout le monde connaît plus ou moins. Alors c'est avant tout un chevalier courtois, c'est un homme de cour, et sa vie va se trouver brutalement changée pour différentes raisons. D'abord, il est marié. Mais à cette époque-là, les infidélités étaient quelque chose qui était très courante. Deux enfants. Et un jour, il poursuit une femme de ses assiduités, une femme extraordinairement belle, se réfugier dans une église. Et alors là, il la coince dans le cœur. Et cette femme est belle, elle rayonne. Et brutalement, elle arrache son corsage et elle lui montre sa poitrine qui est rongée par un épouvantable cancer. Alors évidemment, ça le fait réfléchir. Et cinq nuits en suivant, alors qu'il est en train d'écrire des poèmes courtois, la tradition dit qu'il voit le Christ en croix. Ça va être un retournement complet, et de chevalier courtois, il va se faire non pas prêtre, puisqu'il ne peut pas, puisqu'il est marié, mais il va se faire une espèce de moine propagandiste laïque, en quelque sorte. Et il va parcourir l'Europe. Quelles sont ses idées directrices? Elles sont extrêmement nombreuses. Mais la première idée, c'est de réussir à reconquérir le tombeau de Jérusalem, de réouvrir la route de Jérusalem. C'est la raison pour laquelle, par exemple, il se trouve mêlé à l'affaire des Templiers et qu'il va essayer de persuader Philippe le Bel de ne pas sévir sur les Templiers comme il l'a fait, mais au contraire, d'unifier les ordres Templiers, ce qui d'ailleurs a été fait en pratique puisque les Templiers ont été réunis à l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem. Alors, il parcourt le monde, mais il a une idée qui est tout à fait différente de celle qui est en usage à cette époque-là, c'est que la conversion ne doit pas se faire par le faire, mais par la disputatio, c'est-à-dire par la discussion.
Pour convaincre
les gens. Voilà. Alors pourquoi ? Parce que dans l'île de Majorque, eh bien, la majorité de la population est musulmane et il est hors de question de se livrer à un génocide massif de toute cette population, d'autant plus que ça ne correspond pas du tout au caractère des gens. Donc il faut persuader et il va ouvrir deux petites universités qui ont pour but, pour les chrétiens, d'apprendre l'arabe de manière à pouvoir discuter, dialoguer. Et il va faire un livre qui fait référence, dans le cadre de l'œcuménisme actuel, qui s'appelle « Le livre des gentils et des trois sages ». C'est un gentil au sens antique du terme. Le gentil, c'est celui qui est païen, qui ne croit pas. Hein. Et il a en face de lui un juif, un arabe et un chrétien.
Ça veut dire que Raymond Lulle déjà parlait couramment les langues hébreu et arabe.
Alors, il avait appris bien sûr l'arabe, il avait appris le latin, mais surtout, il est le premier auteur à écrire en catalan. C'est comme si moi je me remettais à écrire le dialecte picard qui, comme vous le savez, m'est extrêmement cher puisque ma littérature sur le sujet est très abondante. Bon, eh bien, donc, il commence à écrire en catalan, mais après ça, il a une réputation qui le précède et il est accueilli par les chanoines de Vauvert, ici, et il s'installe dans une petite rue qui se trouve pas loin de Notre-Dame de Paris. Et très rapidement, il atteint la graduation de docteur, ce qui lui permet, en quelque sorte, de tenir une chaire d'enseignement en français pour les Français, pour les clercs qui veulent bien l'honorer de son enseignement.
Grande époque où on parlait déjà toutes les grandes langues européennes.
Absolument.
13e siècle.
Alors, son œuvre est absolument considérable. Il a écrit 155 livres, ce qui est énorme, 155 livres. Mais ces livres traitent de tout. Par exemple, elles traitent de la médecine. Et quand on lit ces livres, on a la surprise de retrouver des principes hygiéniques, diététiques et thérapeutiques tels qu'ils ont été proposés ultérieurement par Hildegarde de Bingen, mais aussi par la médecine contemporaine. Des choses.
Par exemple,
l'allaitement maternel. Par exemple, le fait qu'on ne doit pas introduire trop vite des bouillies dans l'allaitement des enfants.
Ni vous manger voyez, trop de graisse.
Ne pas manger de graisse. Ne pas donner de vin aux enfants, par exemple. Etc. etc. Évidemment, il est partisan de ne pas faire d'excès de table, pas de gloutonnerie et des choses comme ça, éviter les graisses comme nous venons de le dire.
De la vie saine, de l'exercice
qu'il considère excellent pour la santé.
Donc Raymond Lulle, un précurseur sur ce plan.
Sur ce plan, mais aussi l'essentiel de ce que l'on connaît sur la chevalerie a été rédigé par lui. Il a écrit un livre sur la chevalerie. Les méthodes d'éducation des enfants, assez extraordinaires. Bon. Parmi ces livres, le plus grand, celui qui est La doctrine de la puérie infantile, donc d'élever les enfants, L'Ars Magna, le grand art, Le livre des merveilles, qui sont des livres d'inspiration religieuse. L'Ars Magna est ni plus ni moins qu'un catéchisme sous forme de questions et réponses et qui est tout à fait surprenant de voir parce qu'on s'aperçoit que le catéchisme n'a pas évolué et que les vérités de la foi restent très très fermes et très constantes. Il a écrit de l'astrologie aussi, il s'est intéressé à l'astrologie.
Ça lui a peut-être valu une réputation un peu sulfureuse, non ?
Mais oui et non,
parce qu'à l'époque, c'était admis.
Mais naturellement, à Notre-Dame, puisqu'on voit Notre-Dame ici, on voit les signes astrologiques, on les voit. Il y en a à Reims, il y en avait aussi dans l'Égypte ancienne, on en voit dans les vieux temples. C'est vieux comme le monde, l'influence des métaux et des choses comme ça. Peut-être qu'on la retrouve maintenant avec ce qu'on appelle les nanotechnologies, puisqu'on en parle, l'influence du mercure, l'influence des planètes aussi. Tout ça, ce sont des choses qui porteraient pour l'époque d'il y a 100 ans à rire, mais que l'on redécouvre. Ce n'est pas si bête que ça. Et alors, Incoda Venenum, outre le fait qu'il a créé la langue catalane, qui maintenant est en usage. Si vous allez maintenant,
une langue officielle.
C'est une langue officielle, une des 5 langues officielles de l'Espagne, et on parle le catalan. Eh bien, c'est Raymond Lulle qui donc en a fixé les règles et qui l'a pratiqué. Mais aussi, ça va peut-être vous étonner beaucoup, c'est qu'on dit que c'est le père de l'informatique. Alors, je vais vous dire pourquoi. Parce que Lyell avait créé une série de disques superposés, des disques de taille, de diamètre variable. Ces disques tournaient les uns sur les autres à partir d'un axe. Et à partir de cela, il entendait démontrer la totalité des vérités de la foi en faisant tourner les disques les uns par rapport aux autres. Et nous disposons toujours actuellement de ces disques-là. Si vous voulez, au lieu de taper sur un bouton ou sur une entrée, eh bien on tournait le disque. Et c'est la raison pour laquelle on dit qu'il est le père, en quelque sorte, de
l'informatique.
Ici, un jour, les informaticiens ont un saint patron. C'est certainement lui qu'ils prendront.
Mais pourquoi un saint patron ? Est-ce qu'il est saint ?
Alors, il a été béatifié, c'est-à-dire à l'époque, la canonisation n'existait pas encore. On parlait de béatus, de bienheureux. Donc, il a été béatifié parce que il est allé sur le continent nord-africain où il allait prêcher. Il allait prêcher sur les places publiques, faire des disputations comme il l'avait toujours fait. Et mal lui en prit parce que, en réalité, il a été lapidé et il est revenu avec une fracture du crâne sur son bateau vers son Majorque natale, fracture du crâne dont il est mort, sans doute par diagnostic du médecin, passez-moi le terme, d'un hématome extradural, si vous voulez.
Bon. Alors, vraiment, triste fin pour un des grands génies.
Voilà, triste fin. Bon, oui, mais enfin, il a laissé quand même une œuvre énorme.
Est-ce qu'on peut la lire en français?
Oui, absolument. On trouve beaucoup, et moi j'aime beaucoup cet homme-là parce que c'est à la fois le contemplatif pur. Donc, vous voyez, une œuvre contemplative.
Un mystique.
Néoplatonicien, vous voyez, il se trouverait dans la ligne de saint Thomas, mais en même temps extrêmement actif, dans la ligne de saint Bonaventure, alors que c'était un actif, ça c'est la philosophie aristotélicienne, avec saint Thomas. Donc c'est un homme complet, je veux dire, ça n'est pas un esprit pur, ni un matérialiste pur. Une dernière chose, puisque nous avons encore une minute, il a eu une réputation extrêmement sulfureuse, qui était celle d'alchimiste, d'astrologue, de gnostique, de kabbaliste. Ce sont en réalité des affirmations qui ont été balayées par l'histoire au fur et à mesure. Et la preuve en est, c'est qu'actuellement, son procès en canonisation est en cours. Il y a eu donc à Fanjeaux, dans le Roussillon, la patrie de Saint-Dominique, il y a eu un congrès international où les plus grands philosophes et techniciens de Lyell se sont exprimés là-dessus et ont fait raison de ces affirmations de kabbalistes, etc. D'ailleurs, si on imaginait ce que pouvait être ce genre d'expérience pour découvrir la pierre philosophale, ça nous ferait plutôt rire. Ça nous ferait plutôt rire actuellement. Toujours est-il que cette manière de voir est absolument obsolète et de plus en plus, on redécouvre maintenant son œuvre philosophique car son approche est extrêmement importante parce que dans la formulation, elle se rapproche énormément de la formulation qui est utilisée par les Arabes dans la forme, je veux dire. Bon, ça commence toujours, un peu comme le Coran, par une invocation à Dieu Tout-Puissant, Dieu qui nous fait régner, etc., etc. Alors ça, c'est extrêmement important. Et dans une période où, tôt ou tard, nous aurons une disputation et que je souhaite la plus proche possible, on redécouvrira Raymond Lyell, ça sera mieux que de faire exploser des bombes.
Voilà, on aura déjà un maître. Merci de nous avoir fait découvrir cette grande figure catalane, Raymond Lyell, avec Jean-Pierre Diques. À bientôt pour une autre émission.